Oh joie, oh félicité. Bienvenue dans la bande originale de votre été avec ce matin un casting infernal. Sandrine Kiberlin, Melville Poupeau, Anne Charrier, Michel Simest, Hélène Sauzaré, Tahar Benjelloun, Nicolas Duvauchel et la bande au grand complet. Le meilleur de la bande originale, c'est parti. Excellentes vacances à tous.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Et je suis moi.
C'est la fin des rimes.
Ah
oui,
ça c'est.
Ah oui, c'est dingue.
Ça c'est des faux chanteurs.
Ah non,
de
c'est
de
dingue.
Bain.
Ah non, c'est dingue.
C'est impressionnant.
Timbre.
Moi, c'est ceux qui voilà, ceux qui savent pas chanter. Donc on va pas massacrer Françoise Hardy, la pauvre. Vous l'écoutiez dans des moments justement de solitude sans pouvoir enlever votre robe toute seule dans une chambre
c'est,
d'étudiante.
Oui, c'est possible. C'est quoi, la scène ouais, ouais. Non, c'était, je crois, l'adolescence. On est un peu tourmenté et j'avais l'impression qu'elle m'aidait à exagérer mes tourments quand j'avais envie. Vous savez, quand on s'auto
spleen.
Oui, on s'auto-spline, elle était très forte pour ça, Françoise Hardy, pour les adolescentes.
Elle revient avec un nouvel album, Françoise Hardy.
Et puis sa voix.
On a hâte, ouais, formidable.
Donc je l'écoutais régulièrement, j'adorais l'album Message Personnel, je peux vous le chanter en entier, je ne le ferai pas, je vous rassure.
Merci. Dont le texte parlé sur l'intro était écrit par Françoise Hardy, tout le reste par Michel Berger, ouais. Mais elle se l'est approprié en parlant sur l'intro avec sa douce voix.
Et en 89, Sandrine, vous entrez au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Vous y restez 3 ans et je crois que pour le concours d'entrée, déjà vous détonnez. Vous présentez non pas une scène de théâtre classique comme bon nombre de camarades.
J'en ai présenté deux. Il y en avait une de classique et tout ça.
Et l'autre, c'était quand même Annie Hall.
Ouais.
Et là, tout de suite, on se dit comment on va être reçu.
Surtout qu'on me le déconseillait fortement. Mais c'était pas pour être provocatrice, mais je me suis dit, je passe ce que je sens. C'était avec Yvan Attal d'ailleurs, ouais. On a passé cette scène tous les deux, ouais. Et j'ai été reçue. Comme quoi, il faut faire ce qu'on sent.
En 2009-2011, Melville Poupeau, vous écoutez.
Mom, take this badge off of me. I can't use it anymore.
Morceau culte, si on est. Ouais.
Tiré de la bande originale du film Pagaret et Billy Kid.
C'est pour ça que vous l'avez choisi ?
Non, j'aurais pu choisir n'importe quel Dylan. Non.
Quand vous écoutez ce titre-là, vous voyez plus les images du film ?
Moi, oui, quand même, ouais, parce que c'est un très très beau western, magnifique, avec Chris Christopherson. Et Dylan joue lui-même dans le film le rôle de Alias. Enfin, il y a tout un jeu un peu cryptique, comme ça, toujours chez Dylan. Mais la bande-son, ça, c'est la seule chanson, et c'est d'ailleurs un de ses plus gros tubes, mais le reste, c'est plutôt musical, c'est vraiment musique de film. C'est, ouais. J'aurais pu choisir n'importe quel Dylan.
Ouais, sauf que là, on est un peu dans une période western, justement.
Oui, c'est ça, on vous retrouve dans Lucky Luke.
Ah, bah oui.
Qui est un peu votre. voilà, vous interprétez Jesse James.
Ouais.
C'est un peu un de vos premiers grands films populaires, on va le dire ainsi, en tout cas, qui a touché un vaste public.
Oui.
Pas assez ?
J'en sais rien. Et à l'époque, moi, pour moi, c'était des. Ça, je crois que ça a fait des millions d'entrées, je sais pas combien,
ouais.
Mais j'ai eu l'impression qu'il y avait une petite déception au moment de la sortie, alors que moi, je trouvais ça extraordinaire. En sortant de Raoul Ruiz et de Jacques Doyon, ça faisait une grosse différence. Mais apparemment, il y a eu des déceptions. Mais moi, j'ai trouvé ça bien.
Mais alors, pardon, déception sur le film ou sur votre
non, sur le nombre d'entrées.
Le fait que vous y soyez.
Ouais, sur le nombre
d'entrées. Ah, sur le nombre d'entrées.
Oui,
pas sur le fait que vous ayez trahi entre guillemets un cinéma d'auteur.
Ah non, pas du tout. Moi, j'ai adoré ce tournage. J'étais en Argentine. C'était peut-être la seule occasion que j'aurais de faire un western en tant qu'acteur français. En plus, c'est
le rêve de plein d'acteurs qui l'écrivent à ce micro-là. Le nombre d'acteurs qui viennent ici et nous disent le rêve de faire un western.
À part de jouer dans un Lucky Luke en
France. Même d'actrice, hein, je peux vous dire. Moi aussi, j'adore.
Calamity.
Yes.
Non, c'est un très bon souvenir. D'ailleurs, c'est un très bon film. Mais James Wood, c'est un très très bon metteur en scène. Il s'est permis plein d'excentricité dans la mise en scène, plein de plans farfelus. Non, j'ai beaucoup aimé.
Et je crois que vous avez accepté aussi parce que vous voulez que votre fille vous voie au cinéma.
Mais disons qu'elle n'avait pas vu tous les films de Raoul Ruiz et ni Le Temps qui reste avec Jeanne Moreau où je meurs pendant 1h30. Donc là, c'était l'occasion de
l'emmener
aussi pendant 1h30 pour qu'elle comprenne ce que faisait son papa.
Et réaction ?
Pas grand-chose.
Non. 2012-2014, encore du Bob Dylan pour Melville Poupeau.
Ben oui, je vous ai dit, je suis tombé dedans et j'ai eu du mal à décrocher. D'ailleurs, j'ai toujours pas décroché. Je suis vraiment très fan et Je fais partie d'une petite secte qui s'appelle les Dylanophiles et on se retrouve.
Petite ? Ouais. Il y en a énormément.
Il y a un niveau parce que t'as aussi les Immermaniacs. Enfin, il y a vraiment un espèce de. Tu dois gagner tes galons. Donc, mais...
J'avais pas vu la nuance. Ouais. Il y a les Nobéliens un peu ou pas ?
Ah bah, forcément. quand on est l'un, on est l'autre.
Et en 2012, vous, Melville Poupeau, on vous retrouve avec Xavier Dolan à l'affiche de Laurence Anyways, où vous jouez en effet, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, un homme qui souhaite changer de sexe et qui demande à la femme de sa vie de l'accompagner dans sa transformation. Et je crois que vous avez eu très très peu de temps pour préparer le rôle.
Oui, en fait, il avait un autre acteur en tête à la base et je devais avoir un plus petit rôle. Et ça ne s'est pas fait avec ce premier acteur, donc il m'a rappelé en me disant « Voilà, on doit tourner vite fait, est-ce que tu serais d'accord pour reprendre le rôle ?» Je l'étais, puisque j'avais adoré le scénario et j'étais même jaloux du fait que ce rôle fantastique...
Et pas vexé d'être un choix par défaut ?
Non, pas du tout, je ne me suis pas posé la question.
Mais maintenant que vous le dites, Nagui, ici, je suis vexé.
Les autres sont peut-être déçus.
Un choix par défaut reste un choix, de toute façon. Mais...
Bah, c'est pas ça, c'est que la carrière d'un comédien, c'est tellement de hasard, de chance, de malentendus. Des films que je rêvais de faire, que je n'ai pas fait, et heureusement que je ne les ai pas faits. D'autres que je voulais faire, que finalement, ce n'était pas une super idée. Enfin, c'est vraiment... Il faut jouer avec ça. Quoi.
C'est Louis Garrel, hein.
À la base, oui.
Et quand on expérimente cette sensation d'incarner une femme, même d'aller jusqu'à une transformation physique, vous parlez de l'épilation, vous parlez de tout ça, est-ce que on sent des regards se poser sur soi qui peuvent être dérangeants?
Parce que
on parle souvent en ce moment des femmes, des hommes dans le cinéma, dans la vie. Et je me dis, ça peut être intéressant de traverser un peu, d'aller de l'autre côté, traverser la ligne rouge.
Non, mais c'est très intéressant parce que moi personnellement, j'avais pas de problème à me balader en talons aiguilles et tout ça, mais c'est vrai qu'il y a le regard de certaines personnes, même au sein de l'équipe, qui peut-être eux-mêmes découvraient cette ambiguïté chez eux et qui me regardaient avec beaucoup de concupiscence, et c'était déjà une agression. Je me suis senti très mal à l'aise.
Concupiscence,
ouais.
Carrément.
Il y a des hommes concupiscents. On l'est tous, plus ou moins, mais il y en a qui le montrent plus ou moins. Et moi, il y a certains regards de certains hommes, souvent des gros machos d'ailleurs, un peu plutôt de chez les types qui ont des muscles et qui ont l'habitude de porter des trucs.
Ce sont eux les plus concupiscents.
En tout cas, c'est eux qui me faisaient le plus peur. Peut-être aussi parce qu'il y avait une force physique. Enfin, en tout cas, je me suis retrouvé dans la peau d'une femme qui se sent agressée d'un seul regard. Et je peux dire que c'est pas agréable du tout. Oui.
La bande originale, le best-of, sur France Inter.
Un théâtre, c'est le plus bel endroit du monde. C'est l'endroit où je suis bien. C'est l'endroit où je suis rassuré. C'est l'endroit où le monde me fait plus peur. C'est l'endroit où je pense que rien ne peut m'arriver.
C'est Nicolas Briançon, vous l'avez reconnu, qui déclare ainsi son amour au théâtre. On vous avait reçu avec lui pour La Rivière, qui était mise en scène par Jérémy Lippmann, c'était au Théâtre des Champs-Élysées. Vous avez joué dans plusieurs pièces mises en scène par Nicolas Briançon, au moins trois, je crois, voire quatre, Volpone, Au moment de la nuit, Le Manège, Le pain de ménage. Et vous avez aussi été son élève.
Oui,
Anne Charrier.
J'ai peur.
Et oui. Je crois que ça allait beaucoup plus loin.
Oui, oui.
Bah oui.
Et non.
Alors, racontez-nous cette.
Mais peut-être la prochaine fois. Ah, okay.
Racontez-nous cette histoire, comment elle est née, parce que c'est quand même assez beau de vous suivre ainsi.
Eh bien, Nicolas était intervenant dans l'école dans laquelle je suis rentrée, qui était la dernière école publique que je pouvais intégrer, parce que j'étais très âgée déjà. J'étais une vieille élève.
Vous aviez quel âge ?
Un très jeune prof.
60 ans ?
J'avais, presque 24 ans.
Et oui, donc on trouve que c'est toujours trop tard.
C'est trop tard
pour les conservatoires.
La comédie. À l'époque, oui, le conservatoire, c'était 23.
Mais pour plein de choses encore en France, hein, les écoles de journalisme. Il y a une limite d'âge. On m'a renvoyé pas paître. Certaines écoles, je ne citerai pas, le CFJ.
Parce que trop âgée.
Oui, on m'a dit, fallait vous décider avant, mademoiselle. T'en veux dire, on a quand même le droit de
changer d'avis. Ouais,
c'est
ça.
J'ai le droit d'avoir une vie avant.
Et puis, passion striptease, ça ne se discute pas.
C'est vrai.
C'est ça. C'est quand on sait qu'on va pas pouvoir faire du striptease, finalement, ça arrive assez tard.
Et donc, même problème pour vous. Vous ne pouvez plus aller dans les conservatoires et autres. Et donc, vous repliez sur une école?
Non, qui est quand même une école publique, qui est l'ESSAD, l'école supérieure d'art dramatique de la ville de Paris. Et Nicolas est intervenant à l'intérieur. Et du coup, c'est vraiment la figure avec Yves Pignot et Jean-Claude Cotillard, c'est les professeurs qui, mais Nicolas particulièrement, parce qu'en plus notre vie professionnelle a été très liée ensuite. Ouais. C'est lui qui m'a donné ma chance avec un vrai contrat au théâtre dans le Menteur en sortant de l'école. J'étais enceinte jusqu'aux dents. Enfin, c'est quelqu'un de très important. Et puis j'aime sa façon de parler du théâtre. Là, on l'entend
on
dire.
Je n'ai jamais. Ouais.
Nicolas. plus. Hein. Moi, je parlerai aussi de la peur. Hein. On a une peur terrible les premières. Après, une fois qu'on est sur le plateau, une fois qu'on est en jeu, il y a quelque chose. Oui, il y a une vraie magie qui opère. Mais l'arrivée au théâtre est plus aisée pour lui dans la façon dont il en parle qu'elle ne l'est pour la plupart d'entre nous.
Et sur scène, et sur scène, il a une bienveillance ou il continue d'être un peu le prof, il continue d'être.
Non, il a une vraie bienveillance, ça c'est clairement, et il est facétieux. Il est toujours en jeu. C'est un vrai plaisir de partenaire aussi, c'est-à-dire que même quand il vous met en scène, déjà il y a on est en sécurité, oui. Et puis on est en jeu permanent, c'est-à-dire que chaque soir est différent.
Il dit de vous que vous avez su vous mettre à distance de la superficialité de ce métier. Comment est-ce que vous l'entendez, vous, ces mots-là, d'après vous? Il pense à quoi? Il pense à quelle façon d'être en tant que comédienne? Parce qu'on peut vite se faire happer par...
Mais je travaille le second degré, j'imagine, un peu. Oui, je suis toujours un peu à distance. Maintenant, j'ai jamais eu non plus des raisons de m'envoler particulièrement. Hein, donc, mais c'est vrai que je reste une terrienne. On et revient à la Charente.
La Charente, la
Charente.
Non, mais c'est le bon sens paysan, tu sais.
Charente forêt. Eh ben, c'est exactement
le BSP,
ça.
Et
c'est,
et
ouais.
Parce qu'avec Nagui, on parle de
paysan, c'est très
non,
c'est
pas, pas,
que ouais, c'est important. L'intelligence du cœur et le bon sens paysan, ouais.
Voilà.
Parfait.
Nom de Dieu.
France Inter, la bande originale. Le best-of.
Une fois n'est pas coutume, je tiens à vous féliciter. Ah. Oui, pas tant pour avoir invité M. Benjeloun dans la présence ne fait qu'aggraver davantage le cosmopolitisme éhonté qui prévaut déjà dans cette émission, sous le prétexte égalitaro, féministe au progrès, tolérance au gauchiste, de je ne sais quel respect de la diversité. Ceci dit, au point où on en est, un rasta queer de plus ou de moins...
Oh non,
on était...
Un peu de respect pour notre invité.
Un peu de respect pour ma différence. Ah oui, si je tiens à vous féliciter, donc, quand même, mon cher Nagui, c'est pour le choix de ce livre au titre aussi énergique que martial, La Punition. Comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai pour habitude de m'adonner à la lecture tout en prenant mon bain dans ma baignoire à porte. Mais ce matin, j'étais tellement captivé par la lecture de La Punition que j'en ai oublié de vider ma baignoire avant d'en sortir en ouvrant la porte.
Ah bah voilà.
Alors, vieux gland, mon EHPAD, mon hospice, une auxiliaire de vie pour 35 résidents, ça a été les chutes du Zambèze. Elle est encore l'auxiliaire de vie en train d'éponger en faisant passer tout le stock de couches. Bon, où en est-elle? Merci Daniel. Je n'ai pas servi au Maroc, mais bien des passages de votre livre, Monsieur Benjeloun, m'ont rappelé le bon vieux temps du Baroud. En Djebel de Bouz notamment. Notamment à la page 34, où le lieutenant-chef Aka évoque et ses faits d'armes en Indo et l'intelligence des Chinois. Car pour lui, dont vous le rappelez les propos, Monsieur Benjeloun, je le cite, il dit ceci. « Tous les Asiatiques sont des Chinois, malins comme des satans. Ils sont petits comme des rats. Ils courent vite, on ne les voit pas, et puis ils tombent sur vous et vos égorges. J'ai tué beaucoup de Chinois, il y en avait partout. » Voilà un admirable résumé de la guerre d'Indochine et de notre mission pacificatrice là-bas.
C'est ça, oui.
C'était en 1954. Je sais, je n'ai pas le temps. Car une fois de plus, mon cher Nagui, je ne peux que condamner votre promptitude à emboucher la trompette du pacifisme et de l'antimilitarisme le plus primaire et votre indignation de réformer P4, pas pour les mêmes raisons, je l'espère, que M. Benjeloun, sur le sort de ces étudiants marocains, vous apitoyez victimes, selon M. Benjeloun, de vexation, maltraitance, il l'a dit à l'instant, humiliation, mauvais traitement et autres bilvésés. C'est pourquoi, et peut-être aussi parce que je sens que se réveillent les douleurs, une mutilation ancienne est mal placée, oui. Qui m'empêche de garder la position assise plus de 3 minutes. J'en vois dans l'obligation de vous quitter, croyez Merci. Bien, je ne vous souhaite pas une bonne émission.
Tahar, quand je pense à vous, je pense à une voix qui vous a longtemps guidé et qui, à mon avis, vous guide encore.
Puisque tous mes livres ont été écrits en prison, je les ai écrits pour sortir de prison. Sorti de prison, l'écriture n'avait plus de raison d'être.
Patrick Balkany.
C'est la voix. C'est la voix de Jean Genet.
Jean Genet.
Dont vous avez été très proche, Tahar Benjeloun.
Oui, tout à fait. Oui.
Et là, je trouve que c'est intéressant d'entendre cet extrait-là. par rapport à ce que vous venez de nous raconter. Alors, dans le bouquin, vous racontez que vous n'avez pas eu l'occasion vraiment d'écrire, seulement à l'hôpital, où vous avez écrit vos premiers textes sur des ordonnances. Oui. Est-ce que vous pouvez penser aussi, comme lui, que la lecture est le seul moyen de sortir ?
On n'avait pas le droit d'écrire, mais moi, je volais les papiers, les nappes qu'il y avait sur les tables du mess des officiers, et j'écrivais en cachette parce que je savais pas si un jour j'allais sortir de là, parce que c'est une des maltraitances, c'était de ne pas nous donner une date de sortie, parce qu'on allait rester 2 ans, 3 ans, je sais pas, ou alors nous envoyer sur le front algérien, parce qu'à l'époque ils nous menaçaient de faire une guerre avec l'Algérie, et moi j'avais aucune envie d'aller tuer des Algériens. Et il me dit, ben, peut-être que préparez-vous, peut-être qu'on va aller donner une bonne leçon à ces salopards, etc. Donc on était dans une incertitude, et moi j'écrivais pour laisser des traces. Mm-hmm. Sauf que Genet, lui, écrivait pour sortir, c'est vrai, mais il écrivait d'une littérature d'une perfection absolue et d'un classicisme extraordinaire.
Ah, sa poésie, elle est classique.
Ce qui ne correspondait pas à sa réelle vie, qui était un rebelle, un voyou.
Comment vous l'avez rencontré ? Vous lui avez rendu hommage en 2010 avec Jean Genet, menteur sublime. Oui. Comment vous l'avez rencontré ?
Alors, c'est extraordinaire, c'est lui qui m'a rencontré.
C'est quand vous souteniez votre thèse, c'est ça ?
Non, parce qu'il avait fait une émission à France Culture pour parler. Il a parlé de mon premier livre. Alors moi, je savais même pas qu'il avait lu mon livre. Et quelqu'un m'appelle, me dit, écoute, il faut absolument que tu remercies Jean Genet. Il a parlé de toi à France Culture. Alors j'ai envoyé un petit mot chez Gallimard et je l'ai cité bien sûr mon adresse. Et 3 jours après, j'étais à la Cité Universitaire, rue de Maison de la Norvège, et on m'appelle au téléphone. On n'avait pas le téléphone dans les chambres, ça sonne, et puis je descends en courant, et puis j'entends une voix, ici Jean Genet, vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais, j'aimerais vous rencontrer. Le monde à l'envers. Ça a commencé comme ça en 1974.
Et vous dites que vous avez une dette envers lui.
Ben, il m'a appris beaucoup de choses. On ne parlait pas beaucoup littérature, mais je voyais un peu son comportement, sa façon de vivre, sa façon de réfléchir, et sa lutte. C'était un combattant pour les Palestiniens. Il est mort d'ailleurs avec la rage de ne pas voir les Palestiniens libérés, quoi. Mm-hmm. Et ça, c'est quelqu'un qui ne ménageait aucun effort pour parler de ceux qu'il appréciait et ceux qu'il défendait.
Puisque vous parlez des Palestiniens, j'ai remarqué aussi dans votre récit l'œcuménisme avec lequel vous évoquez toutes les religions et le respect de toutes les religions.
Ça, c'est très marocain, ça. Parce que nous, on a vécu avec les Juifs sans aucun problème.
Parler de Marcel.
Mes parents et moi, on échangeait les invitations, changeant les plats et tout. Ce n'est qu'après que les choses vont s'aggraver, puisqu'ils vont partir malheureusement. Et le Maroc est amputé d'un capital humain important.
De son équilibre, de mélange.
Parce qu'ils faisaient partie. Ils étaient là avant l'arrivée des Arabes. Les Juifs, il y avait les Juifs berbères, les Juifs, ils étaient là, et malheureusement, beaucoup ont quitté le Maroc. Ils reviennent un peu en vacances de temps en temps, mais ils regrettent parce que, je me souviens, j'étais une fois en Israël, et le chauffeur de l'ambassade, c'était quelqu'un de Meknès, il pleurait, on parlait en arabe, bien sûr. Ouais. Il pleurait parce qu'il avait la nostalgie de son pays natal.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Vous êtes bien sur France Inter, mais vous serez encore mieux après le live d'Eddie Depreto et la merveilleuse reprise de Barbara du bout des lèvres.
Dites-le moi du bout des lèvres, je l'entendrai du bout du cœur, moins fort qu'elle met donc cette fièvre. Oui, j'écoute. Oh, dites-le moi tout doucement, murmurez-le moi simplement, je vous écouterai bien mieux, sans doute. Si vous parlez du bout des lèvres, j'entends très bien du bout du cœur, et je peux continuer mon rêve, mon rêve. Que l'amour soit à mon oreille, doux comme le chant des abeilles, en été, un jour et au soleil, je vous le dis du bout des lèvres, vous m'agacez du bout du cœur, Vos cris me dérangent, je rêve. Je rêve. Venez donc me parler d'amour à voix basse dans ce contre-jour. Et faites-moi, je vous en prie, silence. Prenons plutôt le soir qui penche. Là-bas, ce voilier qui balance. Qu'elle est jolie, sa voile blanche qui danse. Je vous le dis du bout des lèvres. Je vous aime du bout du cœur. Et nous pourrons vivre mon rêve, mon rêve.
C'était Du bout des lèvres, interprété avec beaucoup d'élégance par Eddie Depreto. Hop, 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 hop. Que j'aime rire, que j'aime rire. Ce qui n'est pas vraiment le cas avec Alison Wheeler.
Bonjour à tous, bonjour Nagui, je sais pas ce que j'ai en ce moment, je me sens pas très bien. J'ai un travail, une situation, j'ai un deux pièces, je crois que j'ai attrapé un sale truc, je crois que j'ai 30 ans. Et ça me dégoûte, 30 ans, l'âge adulte, quoi, la maturité. Vous faites comme si c'était un truc bien, mais on parle de maturité pour un fromage, c'est bien la preuve que ça pue. Ouvrez les yeux, faites quelque chose, réagissez. Avoir 30 ans, c'est presque la moitié de ta vie, c'est la demi-molle de l'existence. T'es plus un jeune con, t'es pas encore un vieux con non plus, en fait t'es juste con. C'est effrayant parce que je ne me reconnais pas, hein. Je mange des légumes, j'ai rempli une fiche d'imposition, j'ai plus envie de frapper Benabar. J'enlève le carton du rouleau de PQ quand il est terminé, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je suis une autre femme, je suis devenue une adulte. Et je dois vous le dire, tout a changé dans ma vie, notamment sur le plan sentimental. Je suis méconnaissable. À 20 ans, j'avais la vie sexuelle d'un bonobo, je sautais tout ce qui avait de la moustache et une visa électron. Aujourd'hui, 30 ans, je découvre une nouvelle pratique sexuelle extrême. Coucher avec le même mec.
Ouch.
Hein, c'est incroyable. Ouais. C'est un peu comme si t'étais fan de Scrabble et que tu décidais de jouer avec le même adversaire en utilisant toujours les mêmes lettres et les mêmes mots. Migraine. 15 points. Au travail aussi, ce qui a changé, c'est que j'ai un travail. Service public, fonctionnaire, avec tous les petits avantages qui vont avec, stylo de fonction, CDD de 4 minutes par semaine et tutti quanti. Ah ouais, j'adore dire tutti quanti aussi, c'est stylé à 30 ans. Les amis, à 30 ans, ça a beaucoup changé aussi. Ils m'invitent plus qu'à des soirées couples. Les soirées coupes, c'est comme les fêtes, sauf que t'as pas de musique, pas d'alcool fort et tu fais des vannes sur l'actu. Ouais, voilà, c'est une émission de France Inter. Non, les couples, ils parlent pas que d'actualité. Des fois, ils parlent aussi de bébé et ils adorent te le dire à table, entre le fromage et le dessert, droit dans les yeux. Avec Wilfried, on essaye. Et toi, t'es là, tu essayes de ne pas les imaginer en train de le faire. Ma santé aussi, je fais super gaffe maintenant. Ouais, j'ai arrêté de fumer des joints. En revanche... Je suis tombée dans la pire addiction qui soit, les Tupperware. Je sais pas si vous avez déjà essayé. Bah, c'est plus fort que
les
la
boîtes.
Coke, mon gars.
Oh.
Ouais. Putain, t'en prends une, après t'en reprends une, après tu décroches plus jamais. On m'avait dit, n'essaye pas, mais vous savez ce que c'est, on veut faire comme tout le monde. On se dit juste une fois pour goûter. Et puis allez, je reprends que pour les grandes occasions. Et puis un jour, on se retrouve inanimé, le cul à l'air dans la cuisine avec un tas de boîtes, saloperie de dope. Depuis mon 30e anniversaire, je fais des choses que j'aurais jamais soupçonnées. J'ai souscrit à une assurance vie, c'est bien la preuve que je suis devenue une adulte. Une adulte périssable, mais une adulte quand même. Maintenant, je suis devenue prévoyante. Par exemple, j'ai fait mon testament et j'ai fait changer le sien à mon mec, Boudou style. Et on sait déjà qu'on laisse la maison de campagne et la bagnole à notre enfant préféré. Bon, faut encore qu'on fasse des enfants et qu'on achète la maison et la bagnole. Mais bon, c'est normal de flipper aussi. Il y a beaucoup de gens qui font une crise de la trentaine et qui le savent pas. Dans Marie-Claire, ils disent qu'un des premiers signes de la crise de la trentaine, c'est que tu commences à mentir sur ton âge. C'est complètement faux. Le premier signe, c'est quand tu lis Marie-Claire. Elle est où ma jeunesse, hein? Elle est où ma folie? La fille qui riait aux éclats quand elle recevait un PDF parce que ce sont les initiales de paix de fouf. Elle est où la jeune Alison qui s'en mettait plein le cornet à coups de Morito et qui se réveillait pimpante le lendemain? Elle est où la Alison qui prenait la pilule de façon discontinue pour braver le destin, hein? Rendez-la-moi, Marie-Claire!
France Inter, la bande originale, le best-of.
Ça fait du bien de réécouter les Pink Floyd, mais j'ai oublié à quel point c'était bon. Je me suis fait un album le week-end dernier, c'est vachement bien. Oui, je suis à rire. J'adorais ça.
Oui.
Mais vous avez une période Pink Floyd où ça fait partie de vos racines musicales
et... Oui, ça fait partie de mes racines puisque mes parents avaient tous les disques à la maison, tous les 33, donc j'ai grandi vraiment avec Pink Floyd.
Avec des... Même les pochettes étaient totalement dingues à l'époque. Totalement dingues.
On est en 95, Hélène, vous avez fait des études de droit et de lettres. Oui. Pourquoi vous riez ?
Je ris parce que ça n'a pas donné grand-chose.
Combien d'années d'études avez-vous fait ?
Une année de droit et une année de lettres.
Ça fait bien.
Ah oui, c'est gendarmerie, c'est rapide. Et ouais. En fait, vous voulez juste la carte du resto, quoi.
Mais vous choisissez de suivre des cours d'impro, je crois.
Oui, c'est ça.
Pourquoi l'impro ? Qu'est-ce qui déclenche à un moment cette envie de se lancer là-dedans ? Parce que c'est pas...
Allez-y, vous êtes une fougère.
C'était ça un peu. Ah parce bon que j'étais à Lyon, et à Lyon, à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'école de théâtre.
Ouais.
Et donc, du coup, on m'avait parlé de ce cours d'impro, et j'ai démarré par ça, parce que je connaissais personne de ma famille était là-dedans. Et j'ai adoré. Enfin, pour moi, c'est l'impro, en tout cas pour ceux qui veulent faire du théâtre, je pense que de commencer par l'impro, c'est une très bonne chose parce que ça désinhibe complètement. Et ça permet de lâcher toute la timidité,
ouais,
et de, surtout de ne pas avoir peur d'être moche. Et ça, c'est important pour démarrer, je pense. D'être moche, d'être un tronc d'arbre, d'être tout ce qu'il y a de plus insignifiant. Et
de ne pas avoir peur du regard des autres.
Exactement. Ouais. Et quand on démarre par ça, je pense que ça aide beaucoup après pour l'apprentissage du théâtre.
Et vous avez enchaîné après, justement...
On vient donc de vivre la meilleure vanne de la journée. Et Hélène Cesaré avait peur d'être moche. Je pense qu'on est au climax de la vanne. On ne pourra pas aller plus loin.
Non, mais c'est pas ça. Mais c'est parce que je pense
de se ridiculiser.
Voilà, c'est ça. Et, pardon, c'est la peur du ridicule, c'est ça.
Et après, vous venez à Paris, comme souvent, voilà, oui, le chemin des futures comédiennes. École de théâtre Claude Mathieu.
Oui.
Qu'est-ce qui justifie, détermine un choix d'école ? Parce qu'on parle beaucoup dans cette émission des trajets, des itinéraires des comédiens.
Déjà, école ou conservatoire.
Ouais, hein. Voilà. Quel est le chemin ? On l'emprunte comment, ce chemin ?
Mais alors, en l'occurrence, là, c'était assez... En fait, je me souviens que j'avais acheté un magazine à l'époque qui répertoriait les meilleures écoles de Paris, ouais, privées. Et j'avais pas envie, dans les cinq, il y avait Florent, Périmoni, je sais plus.
Enfin bref,
Simon. Et puis, il y avait Claude Mathieu en dernier. Et j'avais pas envie d'aller chez Florent, parce que je sais pas, pour moi c'était, tout le monde parlait de cette école-là. Donc j'ai choisi la dernière de la liste, qui était parmi quand même les cinq meilleures, et j'ai tenté le concours là-bas, et j'ai été prise, et ça s'est fait comme ça.
94-95, Michel Simès, vous écoutiez. Seven Seconds, c'est Néné Cherry avec Youssou N'Dour. Alors, connaissant votre obsession pour les femmes, on pourrait croire que vous aimez cette chanson à cause de Néné. Mais non, c'est parce
quelle
que...
Quelle image il a de moi, quelle image il donne de moi.
Et Seven Seconds, ça représente quoi pour vous?
ma moyenne.
Non.
C'est ma moyenne.
Mais c'est Youssou. Non, c'est Youssou N'Dour, en fait, qui
vous rappelle. N'Dour, parce que moi, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est d'aller faire mon service militaire à l'époque où ça existait, comme VSN, volontaire du service national, au Sénégal. J'ai passé une des plus belles années de ma vie. Parce que d'abord j'étais à l'hôpital principal de Dakar, j'opérais énormément, donc j'apprenais aussi mon métier, et j'ai passé une année dans une ville et dans un pays que j'adore, et bien sûr Youssou N'Dour, c'est le symbole aussi de la chanson sénégalaise.
Et en 95, vous êtes sur la 5e, Michel, vous animez les magazines Qui Vive et Attention Santé, donc ça c'est la télé qui vous ouvre les bras, et pour de longues années, on le voit encore aujourd'hui, puisque vous êtes depuis 98 avec Marina Carrère-Dancos
et Benoît,
Thévenet. Absolument, Benoît Thévenet, sur la 5, la France 5 maintenant, émission quotidienne, émission médicale, c'est devenu un rendez-vous voilà, incontournable de la chaîne et pour beaucoup de téléspectateurs. Il a adoré Michel Simès. Mais pour en arriver à votre venue à la 5e, en 90, en fait, vous étiez déjà en radio, je crois que c'était sur Europe 2.
Ouais, j'ai commencé sur Europe 2 effectivement, où je faisais. D'abord, j'ai commencé par écrire des chroniques pour des journalistes qui les disaient à l'antenne. Ensuite, un jour, il y en a un qui n'était pas là, donc ils m'ont foutu à l'antenne.
Et vous étiez auteur pour d'autres ?
Oui, j'étais auteur pour d'autres.
Mais
j'écrivais des chroniques médicales.
Médicales quand même.
Ouais, pour des journalistes qui disaient. J'étais interne comme ça, je gagnais un petit peu de sous comme ça.
Non, mais et donc le journaliste faisait croire que.
Bah, il faisait croire, j'en sais rien. Il faisait la chronique sans dire que c'était moi qui l'avais écrite.
Je savais pas qu'il y avait des
nègres.
Des prêts de plumes, ouais, c'est ça.
Et puis après, un jour, on m'a demandé de faire de l'antenne. Et puis, après avoir fait de l'antenne, d'avoir dit mes propres chroniques, pour faire plaisir à des copains, je suis allé remettre une
cassette, c'est pour vous dire que c'était il y a longtemps, dans les années 90.
Mais ouais, mais j'ai revu un extrait Info, vidéo sur internet, une compilation de vos moments télé où vous annonciez le Minitel, où vous annonciez l'audio, je sais plus quoi. Enfin, je me souviens même plus.
Mais c'était une vitesse dingue, hein. Ouais. C'est fou. C'est, moi, j'ai des cassettes,
je suis arrivé avec une vitesse dingue, il est vieux, c'est tout.
Non, mais non, il est pas vieux, Michel. Moi, j'ai l'impression que.
J'ai moins de cheveux blancs que vous, Nagui. Donc,
Moi, j'ai laisse naturel.
Non, mais c'est vrai que je t'ai jamais entendu dire, toi, Nagui, dans une émission 36-15. J'ai pas de souvenir de ça.
36-15, Nagui.
Bien sûr. Ah ouais, si, 36-15.
Sur la brosse à dents.
Non, M6 même. C'est fou. 87-88 sur M6.
C'était plutôt 36-15 Ursula.
J'étais 36-15.
Ula, oui. Ula.
Mais je crois que quand vous avez commencé, Michel, à chroniquer sur France Info, après Europe 2, vous avez reçu une convocation du Conseil de l'Ordre.
Ah bah dès que je suis arrivé, en fait, parce qu'il y a l'association des journalistes médicaux qui, me voyant arriver comme médecin et prenant la place à l'époque d'une chroniqueuse journaliste sur France Info, avait envoyé une lettre au Conseil de l'Ordre, au président du Conseil de l'Ordre des médecins, en disant, en me dénonçant, c'était un peu Vichy, vous voyez, et je suis un peu sensible là-dessus.
Bonne ambiance.
Donc j'y suis allé, le président du Conseil de l'Ordre m'a dit, continuez ce que vous faites, c'est super. Voilà, j'ai continué.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Je sais, vous êtes bien dans la bande originale, mais je sens que vous serez encore mieux après le tir à la carabine de General Electric.
Au tir à la carabine, la crosse nichée dans ton épaule, tu détruisais cible après cible, c'était définitif et beau. Les éclats de plastique fusaient quand tu caressais la gâchette, parfois tu jouais pour la peluche, parfois pour le radiocassette. Au tir à la carabine, la crosse nichée dans ton épaule. Au tir à la carabine. Oh, oh. Au tir à la carabine, tu excelles toujours autant. Les plombs qui sortent de ta bouche font voler en éclats les gens. Ta motivation est moins claire, un genre de pluche imaginaire, un truc dément que toi seul vois chaque fois quelqu'un mord la poussière.
Carabine de General Electric dans la bande originale. Il est grand, il est beau. Enfin bon, c'est pas Georges Clooney non plus. C'est Tanguy Pastureau.
Il y a trois semaines, j'ai déjà critiqué Jeff Koons, le businessman qui veut vendre des fleurs en tôle à Hidalgo au lieu de lui en offrir de vraies goujats. Là, j'en remets une couche, donc je pense que je suis grillé pour ce qu'il s'agit d'être invité à la prochaine foire d'art contemporain de Paris. Alors cette fois, ça se passe à Lyon, hein, la ville du saucisson en croûte, et de Gérard Collomb en croûte aussi. Le MAC, Musée d'art contemporain, passe une vidéo tournant en boucle de poulets en feu. On voit les bêtes en train de brûler et de pousser des cris, parce qu'à part les touristes allemands qui ont la peau d'Amélie Nothomb en plus clair et qui dans les bande en août retire tout, personne ne crame volontairement. Donc les associations de défense des animaux qui sont au taquet. Ainsi Florent Pagny gratte sa barbichette et qu'il y a 6 poux qui tombent, elles portent plainte pour maltraitance. Eh bien, s'émeuvent. Elles ont raison. Au-delà de la cruauté, voir des poulets en feu n'a aucun intérêt esthétique. On a juste l'impression d'assister à la préparation d'un repas de famille si mamie Ghislaine n'avait pas eu envie de se casser le bas du dos à déplumer la bestiole. Là, l'artiste Adel Abdesmed se défend. Hein, il dit que le produit mis sur les poulets ne fait pas du feu, mais des effets de flamme sans danger. Si vous en mettez dans un zippo, un biker tatoué peut mettre 16 heures à allumer une clope. Alors, il a déjà utilisé le produit sur lui-même pour un happening, et on le voit debout au milieu des flammes, hein, tel un cracheur de feu un peu âgé qui serait bavé dessus tout en approchant sa torche de ses lèvres. Le souci, c'est que lui, ce grand couillon d'artiste, était au courant qu'il n'était pas en train de brûler. Mais les poulets, non, le poulet est basique. Il voit du feu, il cricote. Il voit de l'eau, il cricote. Ce qui fait qu'on ne sait jamais ce qu'il dit et que par lassitude, on le mange. La femme de Ribéry, qui a aussi peu de mots, a failli 25 fois le foutre dans un Magimix en position purée. Et le type, pour leur mettre le feu, a accroché les poulets par les pattes, la tête en bas, contre un mur de parpaing où ils viennent se taper en se débattant. Hein, c'est comme une soirée SM, mais pour volatiles. Donc on se dit, le gars doit pas aimer les bêtes. À l'instar de des paysans dans L'Amour et dans le Pré qui voient leur troupeau partir à l'abattoir et qui, trois secondes après, disent à leurs deux prétendantes « Bon, c'est pas tous les cochons, si on se faisait un plan à trois. »
Bon, revenons à l'œuvre en question. Y a-t-il un message dans cette œuvre?
Eh bien, c'est une métaphore du printemps arabe. Hein, voilà, hein, parce qu'on se souvient qu'un Tunisien, Mohamed Bouazi, s'était immolé par le feu. Bon, bah là, on le représente en poulet, hein, pourquoi pas. Mais c'est aussi absurde que si un toréador, après avoir coupé l'oreille du taureau, se mettait à crier « Celle-là, elle est en ta mémoire, Van Gogh !» Alors, pour évoquer la chute de Saddam Hussein, ils vont peut-être pendre une chèvre, après lui avoir dit « Biquette, t'affole pas, c'est de la fausse corde qu'on a achetée à Kamel le magicien ce soir, t'es dans ta grange en train de bêler. » Bref, la vie de volatile, c'est aléatoire. Vous tombez sur Macron, vous finissez à la cool dans le jardin de l'Élysée à écouter le président dire à Bruno Le Maire « Mec, t'as vu comment je lui ai séché sa race à la journée en Inde, vous tombez sur Adel Abdesmed, il vous met à l'envers et vous fout le feu. Soit le paradis, soit l'enfer. Les poules ont la même vie que nous chez les croyants. Alors Abdesmed, le fermier de Loué timbré, dit avoir voulu dénoncer la violence à travers son œuvre. Mais pour ce faire, il suffisait de se filmer en train de caresser des poulets en leur chantant, tiens, bah, du piaf. Voilà. L'école John Lennon. Quand Lennon a voulu dénoncer la guerre, il s'est pas mis à latter des bidasses. Il s'est foutu 6 mois au pieux, tout nu avec Yoko, en ingérant uniquement des buvards imprégnés de LSD. Dénoncer la violence en montrant une autre violence. C'est comme si à Christine Angot, qui vous disait que votre livre est nul, on répondait, bah tu sais quoi, les tiens sont pas terribles non plus, bébé. Suite à quoi, elle quitterait le plateau en hurlant de rage et demanderait à ce qu'on coupe la séquence au montage. Je pense qu'arrivé au mois de juin, l'émission après coupe va durer 16 minutes. Bref, le musée de Lyon a prévu de mettre un rideau à l'entrée de la pièce des poulets avec un avertissement. Il y aura écrit « Attention, poulet en train de brûler vivant ». Donc j'espère qu'on va noter les noms de ceux qui y entreront quand même, parce que potentiellement ce sont des psychopathes. Les plus sensibles iront plutôt voir la vidéo des cochons se faisant découper à la scie sauteuse, allégorie de la guerre des Balkans. Alors les poulets, assure-t-on, n'ont pas souffert, c'est l'essentiel, c'était juste des effets spéciaux. Hein, ils viennent donc de passer sous le régime des intermittents en tant que comédiens. Ils ont un agent, sur les 20, il y en a 19 qui vont tourner dans le prochain clip de Julien Doré, hein, parce que son panda l'a quitté pour Brigitte Macron, c'est un truc qui se fait dans le métier. Alors normalement, au César 2019, les poulets seront là, ils vont débouler en feu, ça va être énorme. Hein, les téléspectateurs vont sortir de leur sommeil, interviewés par Laurent Veil. Ils se souviendront alors de leur début, quand un artiste contemporain les a attachés la croupe en l'air et les a maltraités pour dénoncer la maltraitance. C'est dur, la vie d'artiste.
La bande originale, le best-of, sur France Inter.
Choix pointu, ce titre de Marvin Gaye, c'est pas par hasard que vous l'avez choisi. Ça correspond à quoi?
Non, parce que j'aime beaucoup cette chanson. Non, mais j'aime tout Marvin Gaye, quoi, vraiment. Et puis c'est, ouais, cet album avec Is That Enough, j'aime beaucoup. Ouais.
Et quand vous l'entendez, vous vous revoyez en 98?
Je me revois tout petit, tout beau, tout mignon.
Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez parler, Nicolas?
Il va faire chialer Nagui.
C'est la fatigue, faut pas lâcher.
presque en 98.
Et bah, Nicolas, 18 ans, il est tout petit, il est tout beau, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous décrochez, Nicolas, votre premier rôle au cinéma. C'est dans Le Petit Voleur d'Éric Zonka. Je crois que vous étiez un gros passionné de boxe. Et c'est justement dans le club de boxe de Doménil que un petit casting est organisé pour des figurants. Et c'est là que vous rencontrez Zonka, ou en tout cas un dire de casting.
Ouais, un dire de casting. Et puis il me demande de venir faire des essais. Donc j'y vais avec des potes de la boxe. Et puis là, il me dit, oh, c'est super, tu veux pas apprendre un texte? Et on se revoit. Et là, je lui ai mis 2-3 lapins. Et
ouais,
puis,
vous vouliez pas, en fait.
Non, c'était pas trop. Non. C'était un petit sauvage à l'époque. Mais j'ai changé.
Non, mais un petit sauvage, vous racontez en fait que vous aviez quoi, 18 ans, vous aviez arrêté
l'école.
Ouais,
puis ça me faisait chier en fait d'aller apprendre un texte déjà, et puis de devant la caméra, c'était pas trop mon truc. Donc voilà, j'ai mis deux trois lapins, et puis après il m'a appelé sur mon portail, il m'a dit mais c'est con, essaye, ça te coûte rien. Donc je l'ai écouté, j'ai passé le casting, et puis il m'a donné le premier rôle. Ouais.
Et avec Zonka, sur le tournage. Ouais. Et comme vous étiez un petit jeune tout beau, tout mignon, mais en même temps assez peut-être
ouais,
en opposition.
Ouais, j'ai fait une barrière en milieu de tournage. Mais bon, après, c'est des tensions, ça arrive sur les tournages. Et puis tout est rentré dans l'ordre, je suis revenu. Mais c'est vrai
les tensions, elles ne sont pas que de votre côté. Zonka ne doit pas être simple avec tous les comédiens.
Non, mais bon, après oui, c'était peut-être pas une bonne période pour lui non plus. Après, ça arrive. Puis c'est des aventures humaines, donc forcément, il y a des tensions. C'est dans le cinéma, c'est comme ça quoi. Ouais. C'est vraiment un partage humain, donc oui, ça peut être. Et puis on est ensemble H24 pendant un mois, donc
on peut jamais s'arrêter. C'est-à-dire que on a dit moteur le premier jour de tournage, il est impossible, enfin c'est arrivé dans l'histoire du cinéma. Il y a quelques films comme ça qui ont été des fiascos avec des comédiens qui quittent le plateau en cours de route.
Ouais, mais c'est rare quand même, hein. C'est rare, faut finir les films
Qu'on commence, hein. Elizabeth Taylor, la plus connue pour avoir fait ça et avoir coûté des fortunes. Oui, non, mais d'accord.
Voilà.
Oui,
Elizabeth Taylor. Je ne suis pas Elizabeth Taylor.
Oh, je me disais aussi. Oui.
Vous avez un faux air pourtant, mais Nicolas, qu'auriez-vous fait en réalité si vous n'étiez pas allé à ce casting?
Bonne question. Je ne sais pas, de la boxe, je pense que j'aurais fait de la boxe. Voilà.
En pro?
En pro, je sais pas, mais bon, en taille, c'est compliqué d'en vivre, mais oui, j'aurais
fait là-dedans, quoi.
j'aurais fait ça, je pense. Ouais, complètement.
En 2010, vous écoutiez.
Je connaissais pas cette version.
Eagles of Death Metal.
Ouais, c'est ça.
I got a feeling. Ouais, moi non plus. Mais c'est une version qu'on a volée sûrement quelque part sur Internet. Juste un petit. Alors, deux petites choses. Vous écoutiez ce groupe en 2010. Là, dans votre vie, vous en êtes où exactement quand vous écoutez cette musique? Quel état vous êtes, du moins, quand vous écoutez.
Non, après, Eagles of Death Metal. Moi, ça me rappelle Happy Few, mais ça me rappelle aussi les événements du Bataclan. Mais après, voilà, après, j'ai vu les sorties médiatiques qu'a fait le chanteur. J'ai mis ça là, mais c'est vrai que j'écoute plus trop, quoi. J'ai vu que c'était un pro arme, et donc c'est un truc qui m'a pas trop plu. Même le fait qu'il ait dit, voilà, si vous aviez été armé en France, peut-être ce serait pas passé comme ça.
Il a repris la phrase de Trump, quoi. Si vous aviez eu des armes, si chaque personne en public avait eu des armes,
champion du monde,
il n'y aurait pas eu d'attentat. Voilà, il a tout gâché.
Ouais, il a tout gâché parce que j'aimais vraiment beaucoup ce groupe. Puis ça me rappelle Élodie Bouchette avec qui j'avais tourné dans Happy Few. On écoutait ça à l'époque, quoi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc
on va parler d'Happy Few avec Leïla, mais moi je voudrais juste savoir, est-ce que vous aimiez Eagles of Death Metal au point de vous être posé la question d'aller au concert du Bataclan?
Ouais, complètement. En plus, c'est juste à côté de chez moi. Donc oui, j'ai hésité, mais j'avais mes filles. J'avais mes filles ce soir-là. Et heureusement.
Ouais. Donc 2010, Happy Few, on y revient, d'Anthony Cordier. Vous incarnez un père de famille qui s'adonne à l'échangisme.
Voilà, un loisir comme un autre.
La belote,
exactement.
C'est donc un documentaire.
Il n'y a pas besoin de trop de matériel.
Inspiré
ça,
de ta vie, donc. Et, et là, vous incarnez, voilà. C'est un peu les débuts aussi.
Il n'y a pas de chien dedans, on est d'accord. Non,
aucun animal a été blessé.
Chacun ses pratiques. Et vous incarnez un homme un peu plus mature. Parce que jusqu'à présent, là encore, si on fait vraiment des étapes dans votre filmographie, vous étiez tout beau, tout jeune. Vous étiez un peu le personnage en rage contre l'autorité, ce que vous pouviez d'ailleurs être en réalité.
Oui, et puis c'est un des premier rôle de père de famille, on va dire, voilà, donc j'avais des enfants dedans et tout, donc c'est vrai que ça, voilà, c'est, j'ai pris un coup de vieux sur ce tournage. Je me suis dit, merde, ça y est, ils proposent des rôles de vieux.
Ouais, de vieux. Donc, mais ça vous sort aussi d'un...
Non, mais c'était très bien, non, mais c'est vrai que, voilà, j'ai eu la chance de, et puis bon, les rôles font écho à notre vie, donc c'est vrai que c'était important pour moi de passer à autre chose à cette époque-là, quoi.
Vous n'allez pas être la petite frappe pendant toute votre carrière non plus.
Ah non, putain, 50 ans, ça fera un peu de peine quand même.
En 2014, vous écoutiez Taxi Girl. Qui n'est pas une chanson de 2014, pourquoi d'un coup celle-là vous fait penser à cette année-là en question?
Parce que j'étais dans une pièce de Marguerite Duras mise en scène par Thierry Cliffa avec Fanny Ardant.
Des journées entières dans les arbres.
Voilà, et on avait enregistré cette chanson voilà, pour le spectacle, donc ça me faisait penser à ça et...
J'aurais bien aimé l'entendre cette version. Elle existe, elle est sortie.
Je ne sais pas. Non.
On va chercher.
On va chercher le garçon qui chante Nicolas.
Et c'est Fanny Ardant qui a voulu que vous soyez son partenaire en fait dans cette pièce. C'est un peu elle qui a réclamé votre présence à Thierry Cliffa, qui vous connaissait par ailleurs.
Oui, c'est vrai, mais cette rencontre était assez assez folle parce que c'est quelqu'un de voilà de, pas dans la norme du tout et elle est exactement comme je l'attendais quoi, un peu sur la lune, un peu voilà comme ça atypique et c'était vraiment une belle rencontre et puis on a fait 60 dates.
Ouais.
Et c'était juste magique de la voir de pouvoir jouer avec elle et de la voir tous les jours faire quelque chose de différent.
Être
juste
acteur
magique.
Et spectateur en même temps.
Exact.
Tout
faut pas trop être spectateur parce qu'après on sort un petit peu, mais. Mais ouais, c'était fou, quoi.
La bande originale, les meilleurs moments, sur France Inter.
Restez assis, ne bougez pas, attention, elle arrive. C'est Marina Rollman.
Amis, je vous retrouve enfin après des semaines de séparation.
Oui, c'était long, les vacances.
Et puis
on a eu Jérémy Crédville aussi à ta place.
Oui, sympathique. Oui, mieux
quoi. Non, mais il était content d'avoir pris ta place.
Sympathique. Le jour de la journée des droits des femmes,
en plus. C'est ça, c'est honteux.
C'est un comble. Mais oui, donc les vacances et puis une brève syphilis la semaine passée m'ont retenu loin de vous trop longtemps.
C'est les vacances qui te choquent, Nagui.
Mais cet éloignement a été bénéfique parce que ça m'a permis de faire un petit peu le point sur l'émission et voilà, j'ai enfin trouvé ce qui manquait à la bande originale. Des salaires pour les chroniqueurs, diront certains. Une rubrique où Leïla pourrait enfin parler de ses vraies passions, le jet ski et le Red Bull. Vous mettez tous le doigt dans l'œil jusqu'au slip, preuve à la fois d'une grande souplesse et d'une certaine confiance en soi. Non, les amis, ce qui manque à la bande originale, c'est l'horoscope. Alors oui, Nagui, je sais que lundi vous avez expliqué à quel point tout ça était aussi bidon qu'un match du PSG au meilleur de sa forme, mais étant moi-même pourvu du don, j'ai vu dans les astres que dans un avenir proche, vous alliez changer d'avis. Parce que sérieusement, comment peut-on se réclamer, émission de service public, alors qu'à aucun moment on ne dit aux auditeurs avec la lune en verso ce qu'ils doivent faire de leurs finances? Donc, moi je vais remédier à ça pour aujourd'hui. Et si vous voulez que cette rubrique soit pérennisée, n'hésitez pas à envoyer des camps au 10-12-12-74 depuis la France métropolitaine. Alors voilà. Bonjour, Bélier, aujourd'hui, d'humeur coquine, c'est le jour idéal pour avouer à votre poissonnier que vous rêvez qu'il vous prenne sur du Bernard Lavillier, entre les conques et les bulots. Finance, vous l'avez mérité, il est temps de faire une folie, vous kidnappez un vieux et vous payez une yaourtière avec la rançon. Taureau, Mars récessif et Vénus en short, vous voilà sous de parfaits auspices pour monter une arnaque à l'assurance. Amour, vous couchez avec votre oncle. Santé, tout vous réussit, vous bénéficiez d'un tonus extraordinaire qu'aucun obstacle ne saurait diminuer. Attention toutefois aux natifs du 3ème décan qui risquent de décéder d'une mort violente. Restez à l'écart des compacteurs à déchets. Cancer.
C'est moi.
Cancer, c'était toi?
Ouais.
Cancer, très bien. Uranus, Leïla, dans la maison des secrets, vous pousse à l'action. C'est pourquoi vous quittez votre mari et déménagez à Dunkerque. Travail. Vous répondez à tous les appels téléphoniques que vous recevez par la phrase « C'est pour la valise RTL ?» Cet esprit disruptif vous vaut une promotion, Leïla. Lion, vous êtes des putains de gros boss et vous dirigez le monde. Songez toutefois à relever votre messagerie sur le bon coin. Vous venez de vendre une yaourtière à un de ces branleurs de bélier. Continuez comme ça, bande de gagnants. Vierge, quelqu'un est vierge? Non, personne. Tout le monde sait que vous avez triché.
Je suis dans le public, forcément.
Il y a des vierges?
Personne n'est de signe.
Plus.
Personne. Ok, c'est pas un jour vierge.
Alors Vierge, tout le monde sait que vous avez triché au bac de français et que vous mentez sur votre taille. Il est grand temps de brûler vos empreintes digitales et de recommencer à zéro à Pondichéry. Balance, oh là balance. Là. Est-ce qu'il y a des balances? Non, personne. Besoin de changement, de grand air. Vous montez un groupe de ska et faites Saint-Jacques de Compostelle en marche arrière. Les débuts de soirée laissent place à la réflexion puisque vous réalisez que Jean d'Ormesson s'est réincarné dans votre chat. Scorpion. Vous découvrez que le gouvernement vous a mis sur écoute puis a abandonné. Votre vie étant trop chiante. Pour devenir moins fade, vous vous faites des mèches et essayez la Crystal Meth. Sagittaire, personne ne sait ce que c'est que votre signe de merde, vous disparaissez dans une faille spatio-temporelle. Capricorne, hop, avec les Sagittaires, sauf les natifs du premier décan qui, eux, se transforment en pantacourt. Verseau, vous réalisez que vous êtes télépathe et en profitez pour tenter de comprendre ce qui s'est passé dans la tête de l'inventeur du yaourt au soja. Poisson, rien à signaler. Si rien à signaler, vous êtes toujours excellent avec de la nette. Et enfin, c'est une semaine un petit peu particulière puisque vous le savez, ce samedi, Pluton entrera en redressement fiscal dans la maison de Vénus. Ça n'arrive que tous les 74 ans et c'est une journée particulière où il faut aller voir un spectacle d'humour. Et il se trouve que ce samedi, il reste des places pour mon spectacle à Toulon, au théâtre Le Colbert. Voilà. Alors moi, je dis ça pour vous. Hein. C'est vraiment pas pour moi, mais il faut pas froisser Pluton.
La bande originale, le best-of sur France Inter.
Eh bien, tout ça, c'est bien, mais je sais pas, ça manque de quelque chose. Ah oui, je sais, ça manque de moi. Je ne sais pas vous, mais moi, maintenant, j'y crois.
À quoi ?
Ouais. Ce week-end, le Front National a décidé de changer de nom et... Je sais pas, mais là, avec le nouveau nom, Rassemblement National, ouais, j'y crois, j'ai confiance. Pourquoi ? Ne me demandez pas une explication logique, je n'en ai pas. Non, je suis pas le seul à être séduit. Hier soir, coup de fil. Je décroche. Allô ? Oui, je sais, j'ai vu la nouvelle. Alors quoi ? Moi, perso, je suis troublé, oui, mais je me demande, je me pose des questions, je suis tenté, mais j'hésite. Et toi, t'es décidé ? Ah oui, tu prends ta carte, oui. Ok, c'est un peu rapide comme décision, mais pourquoi pas ? Tu vas demander à être membre d'honneur ? Ah, carrément ! Je t'ai rarement vu aussi enthousiaste, hein. Ok, on en reparle lundi. Salut Nagui. Attends deux secondes avant de raccrocher Nagui. C'est quoi la musique qu'on entend là ? Le nouveau générique de l'émission sur Inter. Oh, super. C'est un peu bizarre hein, quand même.
Non, c'est merveilleux.
Si vous êtes tous d'accord, bah bon, on y va. Vous voyez, je suis pas le seul à avoir été chamboulé par cette info.
On s'en fout de toutes ces conneries. Le Rassemblement National, le Front National, la National 7, tout ça c'est pareil, c'est de la merde.
Bonjour François, quel bon vent vous amène.
Mais enfin Daniel, comment peux-tu ne pas parler de ce matin, de l'énorme nouvelle du moment ?
Laquelle ?
Mais enfin, triple couille, hier, les 40 ans de la mort de Clo-Clo.
Bon, si vous voulez dire à moi, allez-y vite fait, mais on n'a pas que ça à faire.
Eh bien hier, comme beaucoup, j'ai été me recueillir sur la tombe de mon idole.
Okay.
Et alors que je priais, nu, allongé sur la tombe, les bras en croix, une voix céleste est descendue du ciel et s'est adressée à moi.
Elle vous a dit quoi ?
Elle m'a dit...
François, c'est moi, c'est Claude. Mon absence n'a que trop duré. Je te donne pour mission de me remplacer sur Terre et devenir le nouveau Claude François. Va sur les chemins et chante mon œuvre. Fais revivre mon style au pays, il en a grandement besoin. À partir de maintenant, tu t'appelles Claude François.
Et du coup, vous allez faire quoi ?
Je vais chanter ses louanges, j'ai répandre la bonne nouvelle comme un apôtre.
Bon, je vais pas vous retarder, vous avez du taf, du boulot, allez-y. Bon, dans l'actu, il n'y a pas que le Front National qui s'apprête à changer de nom, il y a aussi, il vient d'en parler, Tanguy, le voyage de notre président en Inde. Il était content d'être là-bas, c'est vrai, ça faisait plaisir à voir, un voyage qui devrait s'achever aujourd'hui, lundi.
Lundi au soleil.
Stop. Non, désolé, François, mais ça suffit.
Claude, François.
Oui, pardon, Claude, François, mais vous allez me laisser terminer tranquille sans m'interrompre. Allez, chantez ailleurs, s'il vous plaît.
Quand je pense que tu refuses ma performance, alors que Nagui me propose une vraie fortune pour participer à Taratata.
Ça suffit, foutez-moi la paix. Sinon, dans l'actu, il y a cet événement incroyable qui s'est déroulé ce week-end au stade Pierre-Mauroy de Lille. La pelouse a été envahie par la foule. Voilà, oui. Certains supporters ont même tapé les joueurs.
Si j'avais un marteau, je taperais le jour.
Arrêtez ! Ça suffit. Encore une parole de Claude François et j'appelle la sécurité. Et vous ferez moins votre malin quand vous allez vous faire choper par la...
Il se lève et il me bouscule.
Ça suffit ! Arrêtez, j'en peux plus. Avec vos conneries, on va se faire virer tous les deux et croyez-moi, autour de cette table, il n'y aura pas beaucoup de monde pour nous défendre.
C'est clair. Moi contre le monde entier, dans un ami.
Désolé, je ne savais pas comment l'arrêter. À demain.
La bande originale, les meilleurs moments
sur France Inter.
Le meilleur de la BO, c'est fini pour aujourd'hui. Un meilleur de bande originale réalisé par Marie-Annick Rimbaud. Attention, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit.